Bien, donc deuxième partie du marathon. Force et faiblesse de la théorie de l'évolution. Ça passe plus là. Ah, ça y est. Donc, la sélection naturelle, qui est la grande idée de Darwin, je reviens pas là-dessus. C'est donc ce qui permet d'expliquer la spéciation, donc la formation de nouvelles espèces. C'est certainement une force de la théorie de Darwin. Donc, quels sont les arguments qui sont plutôt en faveur ou qui semblent être en faveur de la théorie darwinienne? Donc, la sélection naturelle. Alors, il y a eu je ne veux pas m'attarder là-dessus parce que on a pu remarquer qu'à l'époque industrielle en Angleterre, suivant qu'il y avait de la pollution et les arbres foncés, les papillons blancs étaient plus visibles, donc ils diminuaient en quantité. Et ceux de la même espèce, mais foncés, elles ne se voyaient pas, donc ils augmentaient en proportion. Et quand il y a eu la fin de la pollution, les arbres sont redevenus clairs, les noirs foncés sont redevenus plus visibles, et les clairs, invisibles. Donc, il y a eu inversement du nombre de ces individus. Mais là, vous voyez que la sélection naturelle se fait à l'intérieur d'une même espèce, pas un effet énorme. C'est la microévolution. La spéciation. Donc la spéciation, on l'a observé dans le cas, par exemple, de ces oiseaux-là, qui sont des goélands. Et donc, des études avaient été faites en Sibérie, donc il y aurait eu une espèce souche, et donc des individus auraient migré soit par cette route-là, le nord de l'Amérique, soit par le nord de l'Europe, de l'Asie et de l'Europe, et donc en s'acclimatant, en s'adaptant à ces différents milieux de part et d'autre, eh bien on arrive à des formes différentes puisque le climat n'est pas le même. Et puis il s'est trouvé qu'il y a des goélands qui sont arrivés jusque en France et en Grande-Bretagne, et là, ces goélands, et sûrement en Belgique aussi d'ailleurs, ces goélands, les uns provenant de ce côté, les autres provenant de là, ne sont plus de la même espèce, qui sont plus capables de se reproduire. Donc vous avez ici un cheminement qui s'est fait. Bien, certains critiquent cette histoire, mais enfin, il y a différents autres exemples qui montrent bien quand même que des nouvelles espèces sont apparues. Je vous fais remarquer quand même que ce goéland et celui-là ne sont pas foncièrement très différents. Ce sont des cousins. C'est tout. Maintenant, il y a l'argument des homologies, donc tout ce qui est ressemblance. Alors, même plan d'organisation du squelette, par exemple. Vous avez en effet ici le squelette du bras comparé à celui des membres antérieurs des autres vertébrés. Et vous remarquez qu'on a représenté les os de la même couleur dans chaque cas. Et vous voyez qu'on retrouve les mêmes os chez tout le monde. La seule chose qui les différencie, c'est la forme de ces os. Les uns sont plus allongés, les autres plus courts, plus aplatis, etc. Et donc ça, ce plan d'organisation, pour un évolutionniste, veut dire que tout simplement, l'ancêtre de tous ces vertébrés avait ce plan d'organisation, avait ce plan d'organisation, et il s'est modifié avec le temps, soit pour pouvoir marcher ou nager chez les grenouilles, soit pour voler chez les oiseaux ou les chauves-souris, soit pour nager aussi chez certains, je vois même plus ce que c'est, peu importe. Et puis la tortue, oui, et puis oui, sûrement une tortue ou quelque chose comme ça. Et puis ici chez l'homme, pour faire toutes sortes de choses. Donc, Est-ce que ça veut dire qu'ils ont un ancêtre commun? C'est ce que disent les évolutionnistes. Alors, maintenant, il y a la ressemblance embryonnaire. La ressemblance embryonnaire, par exemple, si vous regardez les larves d'un ver marin, vous voyez qu'elle a cette forme. Elle est microscopique, hein. Ici, vous avez la larve d'un mollusque, qu'on appelle la patelle. Vous connaissez tous ce mollusque, là, en forme de chapeau chinois. Eh bien, vous voyez que sa larve est très proche. Et ben voilà, vous avez une très grande ressemblance au niveau de la larve. Les adultes sont très différents, mais certainement, ça veut dire que les mollusques, comme les vers, ces vers-là, ont un ancêtre commun. La ressemblance génétique, alors, on m'a beaucoup parlé là tout à l'heure des hommes et des singes. Alors, regardez un peu de quoi il s'agit. Les hommes et les singes ont été évidemment étudiés, et maintenant on en connaît beaucoup plus qu'au moment où il y a eu ce schéma. On a comparé les chromosomes des hommes et des singes. Voilà ce que ça donne. Donc ici, vous avez le chromosome de l'homme et à côté le chromosome du chimpanzé. Donc on a mis l'un à côté de l'autre ces chromosomes. Ils ont été colorés d'une certaine façon, il y a une technique, et donc vous remarquez que les bandes là se ressemblent. Alors en effet, alors attendez que je vois un peu, non ça va pas, j'ai pas ça. Vous voyez qu'il y a un tas de chromosomes qui sont totalement identiques, la majorité. Tout ça, c'est identique. Aujourd'hui, d'ailleurs, on sait qu'au niveau des gènes, on retrouve cette identité, cette ressemblance très poussée. Maintenant, vous remarquez quand même qu'il y a des petites différences. Ici, par exemple, vous avez un bout en plus chez le chromosome humain. Ici, un petit bout en plus chez le chromosome du chimpanzé. Ici, vous avez quelque chose qui est pratiquement rien, ici aussi, c'est simplement que cette partie-là s'est retournée pour donner ceci, et ainsi de suite. Donc vous avez une partie qui est identique, mais retournée. Ce sont des mutations chromosomiques, c'est connu des généticiens, donc il n'y a pas un énorme changement, simplement une partie qui est retournée. Et enfin, vous avez donc, ici, rappelé le fait que le chimpanzé a un chromosome de plus que nous, une paire de chromosomes de plus que nous. Mais, si vous fusionnez ces deux chromosomes, vous retrouvez ce chromosome-là chez les humains. Autrement dit, la différence génétique entre le chimpanzé et l'homme est très faible. Très très faible. Et pourtant, le résultat est très différent. Enfin, très différent. Parfois, on peut se demander si réellement c'est différent. Mais, malgré tout, il y a une différence majeure. Ou deux différences majeures. Il y en a plus que ça. Mais enfin. D'abord, le cerveau. Et la parole. C'est lié. Le chimpanzé le plus intelligent ne sera jamais aussi intelligent que le plus bête des humains. Donc, il y a une différence. Mais il y a des chimpanzés qui sont capables de faire des choses extraordinaires. Hein. On leur apprend, ils arrivent. Deuxièmement, la station debout. Ils arrivent à se mettre debout, mais quelque temps, mais c'est réduit. Normalement, un chimpanzé marche souvent plutôt à quatre pattes ou courbé. Donc, ne vous imaginez pas que c'est simplement le fait de se mettre debout, de se redresser, ça suffit. Non, il y a des tas de muscles, la colonne vertébrale qui n'est pas placée de la même façon par rapport au crâne. Il y a toutes sortes d'éléments qui doivent intervenir pour passer de l'un à l'autre. Donc, quelles sont ces différences? Eh bien, bien sûr, on s'est intéressé à la question. Et donc, aujourd'hui même, les évolutionnistes l'admettent eux-mêmes, c'est que cette ressemblance, elle est forte, mais n'explique pas tout. Et donc il y a des différences majeures qu'il va falloir gratter et savoir d'où elles viennent. Donc voilà, de là à dire que ils n'ont pas une parenté commune, ça, pour eux, les évolutionnistes, c'est clair, il y a une parenté commune. Mais ça n'est qu'après que la différenciation s'est faite. La ressemblance moléculaire. Il y a des ressemblances moléculaires extraordinaires. Vous avez donc, par exemple ici, vous avez une molécule qu'on appelle le cytochrome C qui se trouve dans les cellules, qui permet de fournir de l'énergie à la cellule, donc la maintenir en vie. Donc l'humain est comparé à le cytochrome C des humains à celle de différents animaux ou différents êtres vivants. Et c'est entre l'homme et le singe qu'il y a le moins de différence, une seule différence. Si vous passez déjà à la vache ou au mouton ou au porc, il y a déjà 10 différences. Donc oui, il y a un écart. Donc fatalement, le singe est beaucoup plus proche de nous que de n'importe quel autre animal. Nous sommes très proches. Et donc vous voyez, alors évidemment, si vous passez par exemple aux oiseaux, on arrive à... Par exemple, la dinde de Noël, hein, ça fait 13 différences. Les tortues, 15. Puis vous passez au poisson, le thon, 21. Le papillon, là, on sort des vertébrés, 31 différences. Puis là, vous passez à des levures, des bactéries. Alors là, les différences augmentent de plus en plus. Donc, évidemment, pour eux, c'est clair, ça veut dire que plus ça se ressemble, plus c'est apparenté. Donc, nos ancêtres sont les plus éloignés de nous, il faut aller regarder vers le bas du tableau, et au fur et à mesure que le temps passe, nous avons donc des individus qui se forment et qui, évidemment, les derniers seront les humains. Donc, la divergence croissante indique une distance croissante par rapport à l'ancêtre commun. Alors là, il y a une vieille théorie oui, l'ontogénie récapitule la phylogénie. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, les évolutionnistes, bien que maintenant ils sont un peu méfiants vis-à-vis de cette théorie, le développement embryonnaire serait, pour une espèce, le résumé du développement évolutif de l'espèce. Alors, par exemple, chez l'espèce humaine, par exemple, vous avez, si on prend le cas du cœur, le cœur, au début, le cœur est très simple, hein, c'est deux poches, l'une derrière l'autre, pompe aspirante et refoulante. Puis après, il y a une torsion qui intervient, et il y a deux oreillettes. Puis après, il y a deux oreillettes, deux ventricules. Et qui ne sont pas entièrement séparés. Enfin, il y a une séparation totale. Eh bien, ça, ce cœur-là, ce genre de cœur, on le retrouve chez le poisson. Ça, chez la grenouille. Ça, chez les reptiles. Donc, ils disent, nous sommes passés par le stade poisson, le stade batracien, le stade reptile. Ça, c'est le résumé de notre histoire évolutive. Bien. C'est une interprétation. Alors maintenant, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle les organes vestigiaux ou rudimentaires, c'est-à-dire des organes dont on se demande à quoi ils nous servent. Alors, par exemple, vous connaissez tous l'appendice, là. Certains ont peut-être souffert. On l'enlève. Et puis apparemment, vous portez tout aussi bien qu'avant. Heureux de vous en être débarrassé. Or, il y a des animaux qui ont un appendice très développé qui sert à la digestion. Alors Darwin, lui, a dit, ben voilà, ça c'est un reste qui nous vient de nos ancêtres, qui avaient un appendice bien plus développé qu'on appelle le cécum. Et donc, tiens, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc ce cécum, il est réduit, vestigial, chez nous. Alors maintenant, les muscles autour des oreilles. Il arrive qu'il y ait des gens, j'ai toujours un dans la classe qui est capable de bouger ses oreilles, très peu, mais on y arrive, ça sert strictement à rien, si ce n'est qu'amuser les autres. Mais alors naturellement, vous savez très bien que les autres mammifères ont des muscles qui leur permettent d'orienter les pavillons des oreilles, ça leur est très utile. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons ces organes qui sont réduits à la plus simple expression, et nous en avons hérité de nos ancêtres qui en avaient, eux, besoin pour orienter leurs oreilles. Donc voilà, de même, il y a des muscles dans le nez, là. Alors, de même, les vertèbres caudales, là, qui sont minuscules, soudées les unes aux autres, là. Alors, il faut quand même admettre que de plus en plus de ces organes vestigiaux ont une fonction. Et donc, à ce moment-là, le statut d'organe vestigial tombe. Mais quand même, on n'a toujours pas trouvé ici de rôle pour ces muscles-là, jusqu'à présent, chez nous. Les vertèbres caudales ont quand même un rôle, puisqu'il y a des muscles qui se rattachent, donc bon, ça sert à quelque chose. L'appendice, eh bien, il se trouve qu'aujourd'hui, un article est paru il y a quelques mois, qui montre que l'appendice a véritablement un rôle, même pour l'organisme humain, un rôle qui, par exemple, faciliterait la reconstitution de la flore intestinale lorsqu'il y a, par exemple, une gastro-entérite, par exemple, gastro-entérite, ou des choses comme ça. Donc c'est tout nouveau, ça vient de sortir, et celui qui l'a écrit a dit, bien voilà, si Darwin avait su ça, il n'aurait pas inclus ça dans la liste. Donc c'est pour bien vous montrer que... Alors maintenant, est-ce qu'on va trouver un rôle pour chaque organe vestigial? Ça, seul l'avenir nous le dira. Chez certaines baleines, vous trouvez ce petit os-là, qui est à la place de l'endroit où devait se trouver normalement le bassin. Pour, chez autres mammifères marins, vous avez donc un bassin avec des pattes postérieures. Ici, il n'y en a pas. Mais ça n'empêche que ici c'est considéré comme un os qui permettrait de dire que ça c'est un reste d'un bassin qui existait chez les ancêtres des baleines. Et en ce moment il y a une grosse théorie qui se fait grâce à des découvertes de certains fossiles qui essayent de vous montrer que les premières baleines, ces animaux à quatre pattes qui se baladaient sur la terre ferme et puis progressivement et ils ont gagné la mer et se sont adaptés. On trouve différents fossiles, mais bon, ça manque de formes intermédiaires encore. Or, il se trouve que ce petit os a un rôle, puisque certains organes internes y sont rattachés. Donc, est-ce que ce sont réellement des restes de l'histoire évolutive d'une espèce? Peut-être, mais peut-être pas. Donc c'est pas un argument. Par contre, il y a un argument intéressant, c'est celui des adaptations imparfaites. C'est le fameux pouce du panda. Vous avez ici le panda, vous connaissez tous, charmant animal, qui se nourrit uniquement de bambou, de feuilles de bambou. Et pour se nourrir, donc il prend la tige de bambou, et puis il passe sa main comme ça, et il ramasse les feuilles. On pourrait s'attendre à ce qu'il fasse ça, comme nous, entre le pouce et l'index, comme les singes. Eh bien non, le panda a le pouce ici, et les autres doigts, ils sont tous là. Mais à la place, ici, vous avez, à cet endroit-là, un os supplémentaire, qui n'est pas du tout un doigt, et il y a une membrane musculaire entre le pouce et cet os. Et c'est grâce à ça qu'il fait une pince qui lui permet d'attraper. Alors, les évolutionnistes disent, ben voilà, ça c'est un bricolage. Et oui, c'est un terme qui est employé par les évolutionnistes. Et l'évolution, c'est du bricolage permanent. Donc c'est une adaptation, on bricole, après ça s'améliorera peut-être, mais pour l'instant c'est du bricolage. Donc, vous qui défendez le dieu parfait, qui fait une création parfaite, pourquoi aurait-il créé ça? Alors que nous, on a mieux. les singes ont mieux. Et le panda, lui, il fait ça. Bon, alors, on pourra toujours discuter. Parce que si vous interrogez le panda et qu'il puisse vous répondre, il dit, moi, pour moi, ça marche pas bien. Donc, pour lui, c'est parfait. Maintenant, c'est vrai qu'anatomiquement, notre pouce est peut-être bien supérieur, mais enfin, bon, c'est comme ça. Donc, on pourrait ici nous renvoyer dos à dos, hein, chacun pouvant avoir raison, finalement. Alors, il faut savoir qu'il y a des gènes qui commandent d'autres gènes. C'est ce qu'on appelle les gènes de régulation. C'est évident que si une mutation touche un gène de régulation, ça va avoir un effet sur tout un ensemble de gènes. Donc, par exemple, je le prends avec cet exemple, il y en a d'autres, mais vous avez en effet ce qu'on appelle la néoténie dans le langage de la génétique. Pour appuyer le fait que l'homme et le singe ont un ancêtre commun, on a pris cet exemple en faisant la comparaison entre le crâne du fœtus de chimpanzé et le crâne du fœtus humain. Ils se ressemblent pas mal. Forme arrondie, etc. Puis quand on passe à l'adulte, vous voyez que la différence est énorme. L'homme a gardé sa forme ronde, crâne rond, alors que chez le singe, ça s'est très fortement allongé. La boîte crânienne, d'ailleurs, est beaucoup moins volumineuse. Et puis, par contre, vous avez ce qu'on appelle le prognathisme, c'est-à-dire la mâchoire. Les mâchoires vont vers l'avant. Donc la face du singe est inclinée, alors que celle de l'homme est droite. Alors, vous remarquez que, ici, entre le fœtus et l'adulte, il y a peu de différence, alors qu'ici, il y a beaucoup de différence. Eh bien, d'après donc les évolutionnistes, ceci serait dû simplement au fait que nous avons perdu la capacité de nous modifier à l'âge adulte comme ceci. Imaginez ce que nous aurions pu être si nous avions... Or, nous avons gardé cet aspect-là. Parce que nous avons perdu cette capacité qui a touché certainement un gène de régulation qui commandait toute la forme du crâne. Et donc, nous avons gardé un aspect juvénile. Bien. Bon, c'est une explication. Donc, je passe là-dessus. Maintenant, passons à la paléontologie. Ici, vous avez un argument qui est assez sérieux, puisque, en effet, si vous regardez la colonne géologique, c'est-à-dire donc la succession des couches géologiques, vous apercevez que les fossiles ne sont pas dans n'importe quel ordre. Vous ne trouvez pas, par exemple, des trilobites, ici, qui se trouvent dans cette région, de là jusque là, vous ne les trouverez jamais dans les couches supérieures. De même, les ammonites, vous ne les verrez pas au-delà de cette frontière-là. Les dinosaures, pareil. L'homme, vous ne le voyez que dans les couches supérieures, à l'état fossile. Donc il y a un ordre, ce qu'on appelle l'ordre stratigraphique des fossiles. Alors, vous verrez, j'en reparlerai demain, beaucoup de créationnistes ont essayé de résoudre le problème en disant « il n'y a pas d'ordre stratigraphique des fossiles ». C'est facile. On se débarrasse, on se met la tête dans le sol, on fait comme les autruches. On se débarrasse des problèmes de cette façon. Or, il n'y a rien à faire. Vous ne pouvez pas y échapper. Il y a un ordre stratigraphique des fossiles. Comment l'expliquer? Et évidemment, en plus de ça, pour les géologues, il y a un temps là qui a été mesuré grâce aux datations. Et ce temps, si on ne part que de là, je ne parle pas du reste qui est en dessous, ça fait déjà 570 millions d'années. Donc ça fait beaucoup de temps. Donc il est évident que si on voit cet étagement, logiquement, on peut facilement comprendre qu'on en arrive à l'idée que ces animaux, qui sont que des animaux aquatiques, vont progressivement se modifier pour donner des animaux amphibiens, puis terrestres, certains volent, d'autres se déplacent sur la terre ferme, d'autres nagent, et puis on arrive, tant bien que mal, à l'homme. C'est une possibilité d'explication. Avec beaucoup de temps, si effectivement les temps sont si longs que ça, soit on ne croit pas au scénario évolutionniste, soit on dit Dieu est intervenu. Alors, ou bien Dieu a dirigé ce processus, ou bien Dieu s'est mis à créer au cours du temps. Ce qui, vous allez le voir plus tard dans un autre exposé, pose quand même des problèmes. Donc, que faire de ça? Nous verrons ce que, en tant que créationniste, on peut en faire. C'est pas si simple. Donc la complexité croissante, effectivement, si, bien que il faut mettre un bémol à ça, les animaux qui sont là sont relativement moins complexes que ceux qui se trouvent là-haut. Je dis relativement. Maintenant, si vous voyez ces animaux, vous voyez qu'ils sont déjà complexes. Déjà complexes. Donc, complexité croissante avec le temps, c'est quelque chose que on peut imaginer. Maintenant, est-ce que c'est démontré? Ça, c'est une autre affaire. Les séries évolutives. Les séries évolutives, ce sont des séries de fossiles qui se succèdent les uns aux autres et qui marquent, comme Darwin le voulait, une petite différence à chaque fois qu'on avance dans le temps. Pour partir, ici vous avez ce qu'on appelle les reptiles mammaliens. Ils sont partis des reptiles et vous avez des modifications du crâne progressives pour arriver finalement aux mammifères. Donc ainsi vous auriez, lentement mais sûrement, un passage progressif des reptiles aux mammifères. Ça c'est l'une des séries les plus complètes qui existent. Et c'est celle qui, évidemment, appuierait le plus la théorie de l'évolution. Sachez que les autres séries évolutives existent aussi, mais généralement, elles ne portent que sur des individus qui font partie d'une même famille. Autrement dit, là, vous avez des modifications qui sont limitées, et donc, vous ne pouvez pas utiliser ces série évolutive pour expliquer le grand schéma évolutif de Darwin. Donc ici, ça serait peut-être un cas, mais est-ce que c'est suffisant? Ça, en tous les cas, c'est considéré comme un des arguments les plus sérieux. Donc là, évidemment, on passerait d'un grand groupe à un autre, des reptiles aux mammifères, ça c'est un grand pas. C'est ce qu'on appellerait donc une macroévolution. Bon, là, je passe. Quels sont les arguments contre la théorie de l'évolution? La sélection naturelle ne peut pas produire de nouveaux organes. En effet, c'est ce qui fait l'objet donc des études poussées le plus possible par les évolutionnistes. C'est effectivement d'essayer d'expliquer l'apparition des nouveaux organes. Et ça, c'est le plus difficile. Et évidemment, par l'intermédiaire des gènes, apparition de nouveaux gènes, qui donnerait progressivement des nouveaux organes. Ça, c'est une difficulté, puisqu'en effet, un organe qui n'est pas bien adapté ne serait pas retenu par la sélection naturelle. Or, pour qu'il soit bien adapté, il faut qu'il y ait tous les éléments qui lui permettent de fonctionner bien. Et ça, pour y arriver, c'est très difficile. Bien que la ressemblance suggère la parenté, nous avons vu toutes sortes de ressemblances, elle ne la prouve pas. En effet, ce n'est pas parce qu'on est ressemblant que forcément il y a un lien de filiation entre les deux. Les créationnistes vous diront, voilà, c'est Dieu qui a fait un plan, et à partir de ce plan, il a fait des arrangements différents. C'est comme ça qu'on a cette modification. Mais là, quand je dis ça, je n'ai pas prouvé rien du tout, hein. Ce n'est pas une preuve scientifique du tout. Les stades successifs du cœur, par exemple, ou de n'importe quel autre organe chez les embryons, sont nécessaires pour des raisons fonctionnelles. C'est évident que l'embryon ne fonctionne pas de la même façon au début qu'à la fin. Et donc, il a des besoins différents, donc des organes qui nécessitent une forme et un fonctionnement différents. Donc là, c'est une théorie qui tient vraiment pas vraiment debout. De plus en plus d'organes vestigiaux s'avèrent fonctionnels, donc il en reste toujours quand même quelques-uns. Il n'y a pas de critère objectif pour définir une adaptation imparfaite. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le panda est tout content de ce qu'il a. Donc, c'est pas très objectif, c'est plutôt subjectif. Les formes de transition sont rares. Rappelez-vous ce que disait Darwin, elles sont toujours rares, les formes de transition. Voilà ce que disait Darwin, quiconque n'admet pas l'imperfection des documents géologiques doit, avec raison, repousser ma théorie tout entière. Donc les imperfections des documents géologiques, c'est-à-dire d'abord qu'il y a des couches qui manquent parce qu'il y a eu érosion, mais aussi qu'il manque des formes intermédiaires. Et donc, il espérait qu'on allait les trouver avec les recherches qu'on allait faire d'année en année. Mais voilà ce que dit Stephen Gould, 150 ans plus tard, l'extrême rareté des formes fossiles transitoires reste le secret professionnel à la paléontologie. Les arbres généalogiques, des lignées de l'évolution qui ornent nos manuels, n'ont de données qu'aux extrémités et aux nœuds des branches. Le reste est constitué de déductions, certes plausibles, mais qu'aucun fossile ne vient confirmer. Autrement dit, donc on en est toujours au même stade, même problème. Je ne dis pas qu'on ne fait pas des nouvelles découvertes, on en trouve, mais ça ne suffit toujours pas. Alors, j'insiste bien, Gould est toujours évolutionniste. Hein. Croyez pas qu'il est devenu comme ça tout d'un coup. Non, il est bien évolutionniste. Alors, maintenant, en effet, lorsque vous regardez les tableaux qui vous représentent les différents fossiles découverts, ici, par exemple, vous avez le tableau des vertébrés. Donc, vous voyez que, ici, vous avez le temps, de plus ancien jusqu'au plus récent, et vous avez ici en noir tout ce qui a été découvert au cours des temps géologiques. Vous remarquez que vous avez ainsi des groupes qui sont parallèles. Et les seuls liens qui sont présentés ici sont des pointillés. Ces pointillés sont des tentatives par les évolutionnistes de montrer les ressemblances qu'ils peuvent avoir et les filiations qu'ils pourraient avoir entre ces différents groupes. Je dis bien, ce sont des tentatives, ce ne sont pas des choses qui sont démontrées absolument. Donc, il faudrait ici remplir les vides. Quelquefois, il y en a un ou deux qui sont là, mais ça ne suffit pas. Donc, vous avez toujours des groupes qui sont séparés, en fait, qui apparaissent brutalement. Ça, c'est ce que nous donne les faits. Alors, il y a le problème, notamment, qui ressemble pas à celui-là, l'explosion de la vie au Cambrien. Ça, c'est un problème qui est bien connu des... Oh là là. Si vous appuyez trop fort, ça part. Donc, l'explosion de la vie, elle, vous voyez, ça se voit très bien ici. Vous avez ici la limite entre le précambrien et le cambrien. Donc, plus de 500 millions d'années, d'après les datations. Vous voyez ici apparaître toutes sortes de plans d'organisation, depuis les protozoaires, les animaux unicellulaires, jusque aux éponges, aux sélentérés, c'est-à-dire ces animaux proches des coraux, par exemple, des animaux un peu plus complexes avec des coquilles, des arthropodes, donc du même groupe que les crustacés, par exemple. Vous avez donc les échinodermes, c'est-à-dire du même groupe que les oursins. Tout ça semble apparaître brutalement, ou juste un peu avant, mais de toute façon brutalement. Comment de tels plans d'organisation si différents, si complexes déjà, ont-ils pu apparaître alors qu'on n'a pas en dessous les fossiles qui seraient les ancêtres de ça? Alors, chose étonnante, c'est qu'on a bien trouvé des nouveaux fossiles là, des tas de fossiles, mais qui ne ressemblent en rien à des ancêtres de ça. Donc ils n'expliquent rien, ils n'ajoutent rien. Donc, pas d'explication de la théorie darwiniste là-dessus. Et voilà ce que dit Stephen Gould là-dessus. Le problème de l'explosion cambrienne reste toujours incompréhensible. Et peut-être l'est encore plus, puisque notre incompréhension repose maintenant sur la connaissance. Darwin pouvait dire, oui, on ignore, on va trouver. Mais on ignore toujours. Donc c'est encore plus grave. Donc repose maintenant sur la connaissance plutôt que sur l'ignorance de la vie précambrienne. Tout ce qu'on a découvert aujourd'hui ne peut pas être considéré comme des ancêtres. Donc, s'il fallait faire un tableau, voilà en gros que une bonne partie des arguments que nous avons vus tout à l'heure sont des arguments neutres, c'est-à-dire qu'ils peuvent être pris aussi bien par une théorie évolutionniste que par une théorie créationniste. Seuls restent des arguments pour l'évolution, ordre des fossiles dans les archives géologiques, intermédiaire entre les reptiles et les mammifères, ça a l'air quand même, les datations radiométriques, que je n'ai pas abordées, c'est un problème, mais, encore une fois, on peut les critiquer, mais ce n'est pas si simple. Donc, ensuite, vous avez les arguments plutôt en faveur d'une création, manque de forme intermédiaire, je ne dis pas qu'il n'y en a aucune, mais il n'y en a pas suffisamment en tout cas, origine de la vie, c'est un problème que nous verrons demain, problème de l'origine de la vie, c'est un problème énorme pour la théorie de l'évolution, parce qu'il faut non seulement Darwin, lui, vous partez du vivant et vous arrivez à quelque chose de plus complexe, toujours vivant. Là, il s'agit de partir de quelque chose de non vivant à la vie. Ça, c'est une autre paire de manches parce que on a deux mondes totalement différents et de complexité totalement différente. Enfin, vous avez l'origine des plans d'organisation, c'est-à-dire le problème du précambrien, donc du cambrien, disons, l'explosion du cambrien. Donc la théorie de l'évolution est bien documentée. Vous ne pouvez pas dire que la théorie de l'évolution, c'est quelque chose de totalement farfelu, qui vient d'un farfelu qui peut-être s'est cogné la tête un peu fort et qui tout d'un coup a eu cette idée. Non, c'est la somme de travaux considérables, énormes, dans différents domaines. C'est une théorie qu'il faut prendre au sérieux. Même si vous n'êtes pas d'accord, il faut la prendre au sérieux. Et toute critique de cette théorie est une critique qui, vous allez le voir, même quand moi je parle, parce que je ne connais pas tous les éléments de cette théorie, malgré tout c'est impossible, sera une simplification du problème. Donc, faites bien attention, si vous parlez avec un évolutionniste, il est capable de vous trouver des arguments auxquels jamais vous n'avez pensé. Et donc, méfiez-vous, le nombre d'arguments en faveur de la théorie de l'évolution est beaucoup plus important que vous ne le croyez. Cependant, il y a des failles. Donc, microévolution, évolution à l'intérieur de l'espèce, spéciation, formation de nouvelles espèces, et même formation de nouveaux genres, qui est un regroupement d'espèces qui est assez arbitraire, donc ça ne porte pas à grand problème, sont cohérents avec les données que l'on observe, aussi bien chez les animaux actuels que chez les fossiles, et non contredite par la Bible. Ça peut être quelque chose qui va interpeller certains. Je reviendrai sur cette question demain. Mais vous verrez que la Bible ne peut, le récit biblique ne peut pas se passer d'un certain niveau d'évolution. C'est impossible autrement. Et alors là, encore une fois, je ne parle pas d'oiseaux, non, de dinosaures qui se transforment en oiseaux. C'est tout à fait autre chose. La méga-évolution, c'est-à-dire le passage d'une famille à une autre ou d'un grand groupe à un autre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, reptiles, oiseaux, ça, c'est pas confirmé par les données, c'est-à-dire qu'il manque des éléments. Évidemment, c'est pas non plus en accord avec ce que dit la Bible. Alors, évidemment, l'idée d'un dessin intelligent suivi d'une évolution au-dessous du niveau de la famille pourrait être une solution au problème. Mais ça, ça mérite un plus long développement. Donc voici ici, terminé. Alors, les données scientifiques ne sont pas pour autant en contradiction avec notre foi qu'on pourrait le penser. Il y a deux conditions. On trouvera toujours, de toute façon, une difficulté. Mais il y a deux conditions qu'il faut quand même respecter. Ne pas prêter à la théorie de l'évolution plus qu'elle ne dit. C'est-à-dire qu'elle apporte un certain nombre d'éléments, mais elle ne prouve pas tout. Donc, ça, il faut s'en rappeler. Donc, elle ne prouve pas tout. Et il ne faut pas faire dire à la Bible plus qu'elle ne dit. La Bible n'est pas un livre scientifique. Si vous la prenez pour un écrit scientifique, alors, naturellement, viennent des problèmes sans fin. Vous ne pouvez pas prendre un petit verset, un petit détail dans la Bible pour faire échafauder toute une théorie scientifique. Les auteurs bibliques n'ont jamais eu une intention scientifique. Ça, il faut être bien au clair là-dessus. Si certains n'ont pas encore lu le livre de Jean Flory, qui est maintenant épuisé, mais enfin ça se trouve toujours, Genèse ou l'antimythe, courez vite pour le lire par tous les moyens. C'est un livre très intéressant à ce sujet. Donc, ça ne veut pas dire que tous les conflits seront terminés si vous appliquez ces deux règles, mais ça en évitera au moins un certain nombre. Voilà donc pour cet exposé, ce deuxième exposé. Thank you.